France Inter.
Soyez les bienvenus dans la bande originale avec Emma Beaujean, avec Rebecca Balestra. Bonjour. Avec Morgane Cadignan.
Mais oui,
Daniel Morin est
bonjour
avec nous.
Bonjour
Morgane. Angela, tout à l'heure, Tanguy Pastureau nous rejoindra. Et nos invités
qui
ce matin, Laetitia Deutsch et Oulaya Amamra.
Oui. Bonjour.
Bravo. Oh. La bande originale.
Ça fait plaisir.
Leïla Kalou.
Bonjour à toutes les deux, soyez les bienvenues dans la bande originale. On est ravis de vous accueillir toutes les deux pour un très beau film, un film qui m'a beaucoup émue, qui m'a fait aussi beaucoup de bien. On sort de la séance et on se sent, je sais pas, on a envie d'aider déjà, on a envie de savourer chaque instant de la vie. Le film, c'est La Maison des Femmes, réalisé par Mélissa Godet, inspiré de l'histoire d'une femme que j'adore et qui sera avec nous tout à l'heure, c'est Rada Hatem, pour son engagement, pour sa combativité, pour sa vision aussi au secours des femmes. On va parler ensemble de vos rôles respectifs. En plus, vous formez un peu un duo dans le film. Vous êtes associés souvent dans les consultations, dans les moments hyper forts. Ce film-là nous montre tout d'un coup, à travers votre personnage, Oulaya Amamra, Inès, cette jeune interne qui découvre un univers auquel elle ne s'attendait pas forcément. Et justement, la question autour de cette table, c'est est-ce que vous avez déjà fait une immersion dans un univers différent du vôtre au cours de votre scolarité, de vos études, de votre début de vie professionnelle? Emma, ça te dit quelque chose?
Oui, carrément, il y a un an, avec
c'est vrai que c'est un bébé, donc
je suis pas sur mon brevet l'année dernière. Merci. Il y a un an, avec les talents Adami et Mohamed Al-Khatib, on était allés dans un centre de soins vers La Rochelle, et c'était très touchant parce qu'on faisait du stand-up là-bas. Et ce qui était magnifique, c'est que c'était un centre de soins, donc les gens rentrent parce qu'ils vont pas bien, mais ils sortent quand ça va mieux.
Oui.
Il y avait un truc du coup d'espoir, et enfin, c'était vraiment bouleversant quoi.
Voilà, t'étais aux premières loges,
ouais, dans la cantine. J'avais fait genre, vraiment, j'avais dit pas applaudissements. Et il y a un gars qui avait pas de main et qui m'a regardé, qui était genre, là j'ai pas de main. Et j'ai dit, par respiration forte et tout. Et le gars à côté était, enfin, tu vois, c'est horrible. Mais tout le monde avait énormément d'humour, quoi.
Oui.
C'était
génial. Oui. C'était super. Toi, Rebecca?
Bah, moi, j'ai pas beaucoup travaillé en dehors de la scène parce que je suis une méga glandue. Si c'est pas du théâtre, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai fait un stage, ma mère m'a forcé à faire un stage d'été. Et j'ai travaillé aux archives. Et je me rappelle que je n'ai rien foutu de l'été. Je rentrais dans cette salle qui était un espèce de bunker au sous-sol.
Oui,
je mettais un réveil et je dormais. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai hiberné dans les archives.
Sans avoir de problème.
Sans avoir de problème.
Ah oui, en plus, c'est pas mal. Bon stage,
bonne
planque. L'archive, les archives, pensez-y. Morgane Cadignan,
moi,
Madoudou.
Pas tant. Bah, à part les années où je me suis occupée de Daniel.
Ouais. Mais elle m'a mis son pied. Hein.
C'est remboursé.
C'était vraiment. Il est sorti en allant plus mal, malheureusement.
Merci
non,
encore,
pas tant, moi, avec plaisir.
Daniel, expérience professionnelle ou stage?
Ah non,
ou
pas
immersion,
professionnelle.
Ou...
C'était en cinquième. Il y avait des échanges avec des familles.
Tu t'en souviens encore?
Ouais, je me souviens, c'était bien. Et donc, moi, j'accueille un élève, un Américain,
oui,
qui reçoit 15 jours en France. Et après, donc, j'allais passer
mon correspondant,
15 jours. Et là, j'ai changé d'univers. Il y a l'avion de famille qui est venu nous chercher. On a été directement aux Caraïbes, dans leur maison. Voilà, j'étais dans un univers que je ne connaissais pas du tout. J'ai voulu rester.
Non.
Ils n'ont pas accepté.
Pas mal. Voilà. J'aurais bien voulu voir la lettre qui a fait que les professeurs t'ont associé à ce correspondant.
Généralement,
c'est les goûts, c'est les...
Des gens qui ont tout compris.
Oui, absolument. Oldelaf.
Moi, plusieurs années de suite, je suis allé jouer dans un hôpital d'enfants malades à Tours, l'hôpital de Clocheville. Voilà.
Ouais.
Et on venait aller de chambre en chambre pour distraire les enfants, leur parler d'autres choses, faire des chansons, etc. Donc parfois, c'était assez joyeux. Parfois, c'était un peu plus dur en oncologie ou en réanimation. Et le plus dur, c'était quand on revenait l'année d'après, on nous demandait de ne pas prendre de nouvelles des enfants qu'on avait rencontrés.
Voilà,
ça, c'était le plus dur. Et surtout quand t'es parent, quand t'es machin, tu ne sors pas indemne le soir. C'était pas...
c'était
très dur. Mais par contre, je suis très heureux de l'avoir fait.
Moi, je suis allée grâce à un ami que je nomme, Mathieu Simonet, qui a écrit récemment Le Grain de Beauté, qui est un auteur super, qui a toujours des idées folles, qui m'a proposé un temps d'aller passer des après-midi dans un hôpital auprès de personnes âgées et d'aller recueillir des souvenirs de ces personnes âgées. Donc ça pouvait être, je sais pas, le jour où ils ont rencontré leur mari, leur femme, avec de la musique autour pour essayer de faire en sorte que le souvenir revienne mais l'idée, c'est que ces cahiers, ces notes que je prenais, étaient transmises ensuite à des collégiens qui s'en emparaient et qui, à leur tour, reprenaient ces récits et ces éléments pour en faire un texte. Donc, c'était une forme de transmission comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement... Je me disais, oh là là, je vais passer tous mes après-midi avec des personnes âgées et tout. Ça va être l'angoisse. Et en fait, j'ai ri comme jamais. J'étais devenue une sorte de petite fille du service et c'était hyper joyeux. Et vous, dans vos vies professionnelles, dans votre temps libre, est-ce que vous avez fait une sorte d'immersion? Alors, je sais qu'en tant qu'actrice, déjà, vous visitez beaucoup d'univers, naturellement, mais est-ce que vous avez été amenée à faire des choses comme ça, Laetitia?
Moi, j'ai beaucoup fait ça, mais par goût.
Ouais.
J'étais dans une ferme, voir comment on travaillait le sol, comment on travaillait avec les animaux. J'ai fait vraiment beaucoup de choses bizarres. Je suis allée voir comment une comptable travaillait, parce que je voulais voir comment c'était. Enfin, j'ai un goût pour ça.
Mais pour un rôle ou pas du tout? Juste comme ça?
Je voulais écrire un petit moment de ma pièce sur la comptabilité, mais non. J'ai beaucoup fait ça. Puis c'est vrai qu'on a fait ça avec la Maison des Femmes.
Oui, complètement. On a la chance d'avoir un métier comme ça, un peu caméléon. On peut visiter des mondes et des métiers. Moi, j'ai fait mon stage de troisième au Petit Rat de l'Opéra, enfin même à l'Opéra Garnier.
Ouais.
Et j'avais découvert l'univers comme ça du ballet, c'était extraordinaire, je me souviens.
Vous étiez danseuse jeune, vous-même ou pas?
Je dansais, mais comme loisir, là vraiment c'était leur métier. C'était,
Et c'était enviable d'être un Petit Rat de l'Opéra ou pas, depuis votre point de vue à l'époque?
C'était
enviable?
Ah mais à fond, c'était mon rêve de petite fille, je voulais trop. Après.
Oui, parce que la coulisse, ça peut être aussi découvrir l'envers du décor et se dire oh finalement j'ai un peu fantasmé et c'est pas finalement si fou que ça.
Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup d'exigences.
Oui. Et bien ici votre personnage tout d'un coup se retrouve parachuté. Parachuté pas vraiment puisqu'elle choisit ce stage, ce dernier stage d'internat. Elle qui se destine à une clinique privée, en tout cas on l'a destinée une clinique privée, et elle arrive là dans la Maison des Femmes à un moment hyper important, un moment de crise juste avant le Covid aussi, et ça c'est très important, où l'argent manque, où les soignants manquent, où il y a de moins en moins de place, où il n'y a plus de place du tout pour les patientes, et on arrive à ce moment de bascule dans un film choral très très joyeux que vraiment nous vous invitons chaleureusement à aller voir au cinéma mercredi le 4 mars. Mais avant ça, autour de la table, il y a quelqu'un de particulièrement fan
en
de
vous. En tout cas, il n'a pas l'air prêt, hein. Ouais, tout à l'heure, tous, il s'est
Il se lève au dernier moment, comme les enfants, tu sais, au moment où c'est incroyable. C'est Al-Dolan.
Mais oui, évidemment. Je suis fan de Laetitia Doche, une actrice, réalisatrice, bref, une star du cinoche. Être un peu suisse, ça donne un émental d'acier, comme dans le film de Rouillé Doche. Mais là, vous marchez. Je suis fan d'Oulaya Amamra, j'ai tout donné pour elle, j'espère trop qu'elle m'aimera. Grâce à vous, il n'y a plus besoin d'assurance dans le cinéma. On se dit zéro tracas, zéro blabla, Amamra. Et vous êtes là. Et vous êtes venu là pour la Maison des Femmes. C'est une maison qui répare les corps et les âmes. C'est magnifique, mais il y a quelques longueurs dans le film. Je parle pas du rythme et de Karine Viard à la piscine. Ouais, je suis fan de ce film génial et qui nous rappelle que sans les autres, ben on est trop souvent seul à l'appel. Et ça répond à la question que je me posais, si je suis une femme qui a des soucis, où est-ce que j'y vais?
Pardon pour tout.
Nous sommes dans le brouillard, on vit un vrai cauchemar. Avec ou sans enfant, chacune a son histoire de violence et de sang. Mais pour quel espoir? Pour les femmes, avec leurs gestes et filles en larmes. Dites-moi, où vont les femmes? Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, à la Maison des Femmes. Celles qui viennent.
Pardon ?
Maison des Femmes.
Ah oui.
Et là, c'est parti.
Oh, je suis fan de toutes les femmes et se sentent si proches. Alors Biham Amra ou bien Bidoche, vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous, c'est interdit.
Allez,
la bande originale.
Bravo.
L'homme sur des roulettes.
J'en suis plus. Pardon, vraiment, ouais, vraiment.
Ça hypercute quand même.
C'est exactement ça.
Ça débouche le nez. Ouais.
Voilà,
ça réveille.
Voilà,
merci
c'est
beaucoup.
Votre jeudi matin. On est, voilà, on est ravis vraiment de vous accueillir.
Ah, et chaud.
Il a peut-être des dates à annoncer.
Dates. Vous voulez aller voir Au-delà sur scène, vous êtes à Hongres, et ben vous avez de la chance parce qu'il va jouer samedi. Et le 1er avril, il sera au Folies Bergères.
Je pense qu'Oulaya Amra m'a lancé des appels, des SOS.
Visuels. Je me suis dit, waouh, quelle énergie.
Mais s'y attendait pas, quoi.
Non, non.
Bah c'est la même énergie qu'on retrouve dans le film, alors un peu dosé différemment bien sûr, hein, dans la Maison des Femmes qui sera au cinéma mercredi. J'ai pas parlé de ce casting éblouissant. À vos côtés, il y a Eya Hydara, il y a Catherine Viard qui
Karine,
incarne
Karine Viard,
c'est sa cousine absolument. On retrouve aussi Pierre Deladonchamp parce qu'il y a des hommes aussi dans ce film, notamment Laurent Stocker de la Comédie Française et Jean-Charles Cliché, Juliette Armanet, Alexandra Roth, vraiment qui me fait pleurer de rire sans cesse, qui est une comédienne exceptionnelle qui mérite d'être vue beaucoup plus que ça. Oratika aussi, un très très beau casting pour raconter cette aventure un peu folle de cette Maison des Femmes. Vous l'avez dit, c'est un endroit que vous avez eu l'occasion de pénétrer, de rencontrer, de visiter, ouais bien sûr, parce que c'est quand même, on a l'impression que c'est cette maison-là, c'est une antre où on sent que tout est fait à disposition des femmes. C'est assez fou comme sentiment quand on a l'occasion d'y aller, Oulaya.
Oui, complètement. C'est vraiment, c'est un lieu où aussi bien on répare, parce que c'est vraiment un lieu où les femmes peuvent être réparées. Mais en plus de ça, Rada l'a mis en place.
Rada Atem, la fondatrice,
elle a mis en place plein d'autres, j'appellerais ça quoi, pôles de consultation, comme le karaté, des ateliers estime de soi. Et c'est important aussi de rendre aussi la dignité et de permettre ça.
L'estime de soi pour être en mesure. Alors, les profils des femmes et d'ailleurs, dans le film, ce qui est très, très bien et qui est très bien fait et qui est très poignant, ce sont les témoignages de femmes. Et d'ailleurs, des femmes qui viennent de tous les horizons.
Tous les milieux.
De tous les milieux. Et on peut s'en rendre compte à chaque fois qu'il y a une prise de parole avec des récits qui sont absolument sidérants. On n'a pas besoin de montrer la violence dans ce film. Il suffit de la relater pour sentir à quel point ces détresses-là existent partout dans la société. Et ces comédiennes-là, il faut leur rendre vraiment hommage. Elles sont toutes exceptionnelles dans cette incarnation, Laetitia.
Oui, c'est vrai, c'était important de montrer que la violence faite aux femmes, finalement, c'est un vecteur d'égalité parce qu'elle concerne tout le monde, et tous les milieux, tous les pays. Et ça donne l'occasion de voir, je crois, 50 actrices. On est 50 actrices dans ce film. Et donc, 50 visages très différents les uns des autres. Oui. Et ça, c'est rare au cinéma. Et je crois que c'était un truc qui était très important pour Mélissa de montrer la diversité du féminin, en fait.
Oui.
Et la beauté de la diversité du féminin.
C'est très réussi. C'est vraiment très réussi. Avec, en effet, je le disais, un moment de crise. Cette Maison des Femmes, elle tient avec deux bouts de ficelle, un bout de craie. On voit bien.
Et surtout, elle doit faire ses preuves, puisque le dossier, le projet n'est pas définitivement validé. Justement, il y a consultation pour voir si on donne toujours de l'argent, si on pérennise l'aventure.
Elle est menacée de faire. Cette Maison des Femmes, on voit les inspecteurs de l'IGAS qui sont là, hein, l'inspection générale des affaires sociales, j'ai noté parce que franchement, les sigles, c'est pas toujours simple. Et on voit bien qu'elles accueillent des patientes, elles veulent les accueillir en plus grand nombre, mais elles ne peuvent pas financièrement. Et c'est là que tout d'un coup, il va y avoir un truc un peu magique, une femme à la tête de ce navire qui va dire « Quoi, on n'a pas assez de moyens, on est endetté, on n'a plus d'argent, eh ben on va s'agrandir ». C'est quand même fou ça, réaction.
Oui, moi je trouve ça vraiment très fort. Effectivement, elle dit, ok, on n'est pas respecté, mais c'est parce qu'il faut qu'on soit plus grand. Donc on va investir, on va s'agrandir et on va devenir des pandas, elle dit. Donc un peu comme le WWF. Il faut qu'on se markete.
C'est ça, il faut entrer dans cette ère-là, il faut qu'on nous connaisse, il faut qu'on nous reconnaisse. Alors c'est marrant, dans le film, ils expliquent bien que les dons, parce que ça va fonctionner aussi par du mécénat d'entreprise, du mécénat privé et puis du don aussi. dit, comment on fait pour lever des fonds, et ça c'est vraiment l'enjeu de toutes les grandes associations, c'est se dire que l'été on donne plutôt pour les animaux, pour la SPA, que l'hiver on donne plutôt pour la banque alimentaire, et à cet endroit, où est-ce que les femmes, on va donner pour elles, en fait? Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez été sensibilisée à ça. Comment on fait rentrer de l'argent? Parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui bossent à la Maison des Femmes.
Oui, c'est ça. Et
ah, puis, je parle la maison mère, hein, oui, de Saint-Denis, oui, parce qu'il y a eu des petits depuis.
Oui, c'est ça. Maintenant, je crois qu'on compte à peu près 34 maisons des femmes. Mmh. En France, c'est beaucoup depuis, mais c'est pas encore assez. On a été présenter le film dans plein de villes où il y a des maisons des femmes. Oui. Et des fois, elles peuvent avoir jusqu'à 6 mois d'attente pour pouvoir avoir des consultations. Et donc ça, c'est vraiment, on rappelle ça, mais le don, il aide ces structures à pouvoir voir encore plus de patientes qui nécessitent des soins.
Et les garder plus ou moins longtemps, parce que vous parliez de réparation. Qu'est-ce qu'on entend par réparation? Parce que le profil des femmes qu'on voit dans le film, c'est des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été excisées, des femmes qui sont battues et qui subissent des agressions physiques. Il y a différents profils, en fait, dans cette maison des femmes.
Oui, il y a plein de versions de la violence faite aux femmes.
Ouais. On la décline.
Il y a plein de catégories, oui. Pas de souci. Ouais. Effectivement, il y a aussi la violence verbale, la violence psychologique. Il y a énormément de choses.
Donc il y a une réparation qui peut être physique si certaines femmes le souhaitent dans les cas d'excision.
Voilà,
avec une vraie explication de vraiment le clitoris, de montrer comment est-ce qu'on peut récupérer un clitoris qui s'est rétracté. Enfin, moi c'est la première fois que je découvre vraiment ça. C'est quand même l'anatomie féminine.
Puisqu'on peut réparer le clitoris il est excisé. Ça c'est quelque chose que moi j'ai découvert avec le film. Mais c'est quand même un truc de malade qu'on puisse reconstruire, femme elle puisse réavoir du plaisir par cet endroit-là.
D'ailleurs, c'est une scène très touchante où elle fait un petit point, Karine Viard, avec une de ses patientes, on lui dit « Alors, c'est comment maintenant ?» Parce que ça fait un moment.
Oui.
Et l'autre, à un moment, elle est toute fébrile, elle fait « Mais c'est trop génial !» Et les deux éclatent de rire. Mais
c'est la découverte du plaisir
larmes.
Féminin, ouais, en fait, ouais. D'un coup. Et d'ailleurs, le personnage campé par Karine Viard, quand elle lui dit « Je vais lui faire un clito de compétition », je pense qu'on retrouve un peu Rada Hatem là-dedans. Donc, ces femmes doivent être réparées physiquement, mais pas que physiquement, en fait. Si elles le souhaitent, mais c'est surtout une prise en compte aussi psychologique. Et vous le disiez, il y a des ateliers multidisciplinaires pour les aider. Vous avez participé en observant peut-être en amont du tournage du film Oulaya à ces ateliers?
Oui, alors on n'a pas pu vraiment investir les lieux parce qu'on ne peut pas arrêter l'activité. Mais on a pu passer une journée je crois Laetitia va vous en parler mieux que moi, mais elle a pu assister. Et du coup, on a pu poser des questions et elles ont été très très généreuses. Déjà extrêmement fortes et courageuses. Et généreuses, elles nous ont donné...
elles étaient contentes qu'on soit là. J'ai l'impression
vous racontiez leur histoire aussi.
Oui, et puis aussi, tout à l'heure, vous parliez des hommes, mais c'est important de le dire parce que je crois que ces femmes, aussi pour se reconstruire, elles ont besoin. Il y a un moment, le personnage de Pierre de Lanonchamp, qui est le psy de la Maison des Femmes, il dit ça, il dit en fait, elles ont besoin aussi d'un regard masculin pour pouvoir...
qu'ils leur disent que c'est pas normal.
Voilà, qu'un homme puisse dire c'est pas normal qu'un autre homme ait fait ça.
Il dit ça en consultation à une femme qui veut tout abandonner.
Oui, c'est ça. C'est important aussi dire qu'on n'y arrivera pas sans les hommes. C'est aussi un film qui redonne de l'espoir et je trouve qu'il fédère par la... Voilà, le collectif, je crois beaucoup au collectif.
D'ailleurs, il y a une scène... Alors, dans les films en général, si je suis très très honnête, systématiquement, il y a une scène de danse qui, une fois sur deux, si je suis très très honnête encore une fois, m'ennuie profondément. Dans la Maison des Femmes, il y a un moment de danse, mais un moment de danse qui célèbre un collectif, qui célèbre aussi des femmes qui, au quotidien, doivent tenir, parce que on va y venir, elles sont des praticiennes, elles ont des spécialités, elles œuvrent comme des professionnelles dans cette Maison des Femmes, mais elles se sont aussi des femmes, des mères, elles ont une vie sentimentale, une vie familiale qui est pas toujours évidente, et tout d'un coup, il y a un moment de lâcher prise collectif, et forcément, il fallait du Céline Dion. Et là, je vous revois, Oulaya, je vous revois, Laetitia, dans vos personnages danser, vous déchaîner sur le dance floor après des journées, j'imagine, compliquées. On va y venir aussi. Comment est-ce qu'on gère tout ça? toute cette souffrance, là, votre personnage pose cette question, Oulaya Mamra. Vous faites comment pour tenir? C'est absolument dingue. C'est la Maison des Femmes, c'est mercredi. C'est au cinéma, c'est très réussi. Et tout de suite, c'est aussi très très réussi. Toujours parce que c'est ma Morgane Cadignan qui est de retour. Bonjour ma doudou.
Bonjour.
Toi tu n'aurais pas fait ce film comme ça, Morgane.
Non, vous avez raison Leïla, je ne l'aurais pas fait comme ça. Et en même temps, est-ce que je l'aurais fait? Un film qui raconte une histoire vraie, ça demande énormément de travail.
La documentation,
l'investissement du sérieux. Bref, ça demande de pas snoozer comme un porc chaque matin. Déjà, La Maison des Femmes, on l'a dit, il y a des hommes mais peu. Quel excellent critère. La Maison des Femmes, c'est un film inspiré et fabriqué par un peu, malheureusement, les seuls humains que les violences faites aux femmes intéressent, les femmes. Moi j'adorais qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui s'emparent de ces sujets au cinéma, mais on peut pas, il y a Timothée Chalamet, il joue au ping-pong. Quel ennui. Ah oui, alors je me suis radicalisée en un an et demi, pardon, faut le dire, depuis ma dernière semaine à la bande originale, j'ai pris 2,5 kilos et encore plus conscience de la violence patriarcale. C'est ma nouvelle DA, gourmande des misandres. La naissance du projet, ça remonte à fin 2016, magie du cinéma, magie de la patience également. Le projet, il démarre fin 2016, faut convaincre Ada, écrire un traitement, s'imprégner des personnages. Putain, et le film sort début 2026, 10 ans de travail pour venir ici et écouter Hold de la faire une chanson dessus, mon dieu. Alors, par respect, je prononcerai pas le mot gâchis, mais si vous voulez partir, franchement, je comprends, quoi. Donc non, Leïla, je l'aurais pas fait comme ça. Comme je disais, la naissance du film, c'est Mélissa Godet, la réalisatrice, qui a entendu à la radio la gynécologue obstétricienne Rada Hatem parler de la Maison des Femmes qu'elle venait de créer à Saint-Denis. Déjà, il aurait fallu que j'écoute la radio.
Ouais.
Très peu pour moi. Comme disait ma grand-mère, Dieu t'a fait des yeux, c'est pour regarder la téloge. Oh, la paix à ton âme, mamie. Elle est vivante, hein, elle va très bien, mais en Guadeloupe, c'est comme ça qu'on dit bonjour. Paix à ton âme, Daniel, je t'avais pas vu. Ensuite, le résumé du film commence par « À la maison des femmes, entre soins, écoute et solidarité. » Et bah, raté pour moi. C'est pas que je suis pas tournée vers l'autre, mais pour moi, le soin, ça s'arrête à la skincare. Et la maison des... et la maison des femmes au port dilaté, bah, ça existe déjà, ça s'appelle chez WAM. Ensuite, l'écoute et la solidarité. Bon, bah, moi, je suis surtout là parce que j'ai oublié ma gourde en 2023. Mais vous inquiétez pas, Laetitia ou Laïa, ça va très très bien se passer. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien. Laïla, elle est sérieuse, c'est une dame qui a des fiches, cerveau, un sourire éclatant. C'est ce qu'on a qui se rapproche le plus de Michelle Obama, cette femme. Elle aurait dû être présidente, mais on la retient dans ce studio depuis des années. Nagui n'est pas là, on a laissé la porte ouverte. Enfuis-toi, Cro-Blanc. Bon. Elle reste, mais tant mieux pour vous, franchement. Tout à l'heure, notre invitée spécialiste sera la créatrice de la Maison des Femmes en personne, et c'est très classe. Elle nous parlera de son livre « Avorté, un droit en danger ». Avant ça, Rebecca Balestra fera une chronique, et la connaissance, je vous cache pas qu'on a tous un peu peur qu'elle s'avorte en direct pour marquer le coup, quoi. Dans tous les cas, ça va être super, puisque vous venez défendre un film puissant. Un film engagé, mais pas que, il y a aussi beaucoup de joie dans tout ça, il y a beaucoup de joie dans la reconstruction. Et après une chronique d'Old Laf et de moi-même, vous reconstruire, bah, c'est tout ce que je vous souhaite.
Oh, bon doudou.
Elle est sur scène à la Nouvelle Ève jusqu'au 9 avril et à Strasbourg, le 8.
Strasbourg, et tout à fait.
Absolument. La musique aussi dans la Maison des Femmes, ces cœurs de femmes.
Hyper beau, hein.
Ça porte énormément dans ces séquences où on a envie d'avoir aussi de l'espoir pour que les choses aillent dans le bon sens. C'est pas du bon sentiment, vraiment. Moi, j'ai été saisie, j'ai été cueillie par ce film. Je connaissais l'histoire, je connaissais la Maison des Femmes. Je connaissais aussi Rada Hatem parce qu'elle rameute, elle a cette force-là de conviction. Mais j'avoue avoir été... Très touchée aussi par vos personnages. Laetitia, on n'a pas encore parlé beaucoup de Manon, qui semble être là depuis un petit moment à la Maison des Femmes, qui se bat et qui est jeune maman. Et vous m'avez beaucoup émue aussi parce que vous dites pas mal de choses dans ce personnage que beaucoup de femmes pensent et ne s'autorisent pas à dire.
C'est vrai, quand j'ai lu... Pardon, je vous ai coupé ?
Non.
quand j'ai lu le texte, par exemple, quand même, mon personnage dit... Je veux bien que mon fils m'en veuille de pas avoir été assez là, mais moi je veux pas lui en vouloir d'avoir sacrifié ma vie pour lui. J'ai jamais entendu ça au cinéma, ça c'est quand même un sujet assez tabou.
Et oui.
La maternité, enfin, vouloir être complète, vouloir tout bien faire.
Elle veut tout, elle le dit, moi je veux tout.
Oui.
Je ne veux pas choisir entre une vie de mère ou une vie professionnelle, je veux absolument tout. Alors elle est dans un moment, elle aussi, de crise.
Ouais.
J'ai l'impression que ça correspond, hein, comme la maison des femmes peut être un personnage du film. Vous aussi, votre couple rencontre une difficulté.
Ouais.
L'engagement, le
Pourquoi
désengagement.
Moi aussi
non, mais votre personnage, oui. Pardon. Non, mais moi, je sais pas. Ça va bien sinon.
Et le mec se fait engueuler quand il va avoir un malheureux texto.
Et vous, comment vous allez? Et non, votre personnage traverse un moment de crise dans son couple. On sent qu'il y a un engagement plus ou moins fort du père dans cette parentalité qui est nouvelle aussi,
ouais.
D'un enfant très désiré,
ouais,
qui a mis
ouais.
du temps à venir.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est un enfant qui vient après plusieurs fifs quand même. Après,
ça aussi, on n'en parle pas beaucoup de ces difficultés à avoir des enfants dans les films.
Oui, c'est vrai.
Mais oui.
Et donc, et pourtant, Manon, elle veut pas être à 100% mère. Et elle est face à ses contradictions, et donc elle retourne au travail, on l'apprend, okay. Elle retourne à la maison des femmes après son congé maternité, et donc elle prend son lait, elle tire son lait entre deux citations.
C'est ça.
Non, pour moi c'était très fort de porter ce personnage-là avec ces questions-là, parce que je ne les ai pas moi-même. Donc j'ai pas d'enfant, donc dans les discussions, quand les mères parlent en lantaire, je me sens toujours un peu à part, et j'étais fière, et je me sentais pas du tout légitime de porter cette question-là, et j'avais peur. Très peur de la jouer, ouais. C'était très important.
Mais je crois que c'est un personnage qui fera date aussi pour ce qu'elle raconte de la vie des femmes,
bah,
des mères et des mères qui veulent allier en effet le professionnel et le personnel. Et votre personnage à vous, Laïa Mamra, là aussi, il a cet itinéraire contrarié. On comprend pas bien au début. Elle est vouée à travailler dans une clinique privée pour faire plutôt des césariennes de confort. Mmh. C'est-à-dire on déclenche des accouchements à des moments précis quand ça tombe bien dans le calendrier, ce qui est une pratique courante. Finalement. Mais elle arrive là à la maison des femmes, charriée un peu par le personnage de Yaïdara. C'est la petite jeune, quoi. Elle débarque, elle observe.
Oui, c'est ça. C'est le petit poisson rouge, elle appelle Mélisa. Et c'est vrai
Pourquoi le petit poisson rouge?
Parce que c'est elle qu'on suit, je sais pas, là.
Oui, vous êtes notre
appellation.
Porte d'entrée. Hein.
Oui, ouais. C'est ça, un peu comme le spectateur. Elle entre, elle découvre, et je crois qu'elle n'est pas là. Enfin, elle va le découvrir au fur et à mesure, mais elle n'est pas là par hasard. Et j'ai l'impression que toutes les personnes qui travaillent dans ces maisons-là, elles ont un endroit où, bon, c'est pas un hasard quand même. Mmh. Et je crois que ça a donné beaucoup de sens, en tout cas à Inès, de découvrir cette maison des femmes. Et j'ai pu parler aussi avec des soignantes à la maison des femmes qui ont aussi, qui m'ont aussi dit, bon, bah, à un moment donné, c'est vrai que de se sentir utile, je dis pas, dans le privé, on a aussi besoin, mais c'est différent, je crois.
Mais là, on a l'impression qu'elle a fait ses études de médecine comme elle aurait fait une école de commerce. Parce que là, elle va intégrer une clinique, clairement, pour aller faire de l'argent.
Bah, clairement, c'est ça. Ouais. C'est ce que sa mère, en tout cas, aura pour elle. Aratika, qui est super.
Qui parle d'ambition. Et de,
c'est voilà. Ça, qui parle d'ambition, parce que, voilà, à l'époque, ces maisons-là, elles ne sont pas encore développées. Et puis, voilà, et puis c'est dur. Et ces femmes, elles se battent. Moi, j'ai entendu des témoignages de femmes qui ont pu même dormir pendant le Covid pour soutenir les victimes. Vraiment, elles donnent. C'est intéressant aussi de voir à quel point elles se.
L'engagement.
Elles mettent leur vie de côté. Et ça, je trouve ça tellement courageux.
Et votre personnage, il est fou aussi pour ça, parce qu'à travers elle, je trouve que c'est un film aussi qui fait œuvre de pédagogie sans forcément l'afficher en clignotant au début du film. Mais à travers votre personnage, on comprend, notamment avec ce stage de sensibilisation auprès des forces de police, les différentes étapes, les phases qui font qu'on peut repérer la difficulté de la femme et sa mise en danger, en fait. Et tout d'un coup, le mot emprise est lâché. Parce que la question, c'est pourquoi ces femmes ne partent pas quand il s'agit de violences physiques et d'harcèlement moral, en fait. Pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas? Et votre personnage, on a l'impression que c'est lui qui fait le plus grand chemin.
Oui, c'est vrai. C'est un chemin qu'elle. D'abord, le corps y parle. Ensuite, elle a des moments comme ça qui la dépassent avec des patientes, parce que elle-même, elle comprend pas vraiment pourquoi. Notamment, je pense à cette patiente Catherine. Mais donc c'est vrai. Ces femmes-là, à un moment, elles m'ont dit aussi. Il y a des moments aussi où on comprend pas pourquoi elles partent pas.
Parce que le personnage de Catherine, elle dit hein, mon mari, il a beaucoup de responsabilités. Oui. Donc en fait, ça lui arrive de s'emporter et de parfois de me frapper. Et elle dit, mais après, il finit par s'excuser, et puis ça rentre dans l'ordre. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là qui n'ont pas décidé elles-mêmes? Parce que c'est ça, vos personnages ne sont pas là pour décider pour ces femmes.
Y a quelque chose quand même qui est, je trouve... assez beau, c'est que ces femmes, il faut qu'elles arrivent à repenser qu'elles puissent mériter mieux, qu'elles ne valent pas ce qu'elles subissent en fait. Ça, c'est tout un travail, un chemin psychologique. C'est pour ça qu'il y a des psychologues. C'est ça qu'il faut qu'elles comprennent. Et effectivement, ça doit être. Ça, elles nous ont raconté, ça a été très dur pour elles. Oui, elles peuvent pas. Elles doivent suivre le rythme de la patiente, quoi.
Ouais, parce qu'elles ont une image dégradée d'elles-mêmes. Elles sont plus en mesure de considérer qu'elles méritent même des soins en fait, ou qu'elles méritent un regard,
même
une tendresse.
Un avenir différent, ça c'est tout un travail.
C'est vrai. Et donc les deux psys dans le film, c'est Pierre de La Donchamp et Juliette Armanet, qui chacun à leur manière, comme ça, rencontrent les patientes, qui leur livrent des récits. On l'a dit, ces femmes, elles peuvent être bien installées dans la société, elles peuvent en revanche se retrouver sur le territoire français sans papier, et donc elles doivent aussi subir l'épreuve de l'OPFRA et devoir témoigner, raconter leur histoire pour justifier de documents ensuite. Donc on a vraiment tout l'éventail, et comme vous le disiez si bien, Laetitia, l'égalité, là, pour le coup, on peut la mesurer à hauteur des violences et de tout ce qui est fait aux femmes, à un moment où le Covid éclate, et là, on le sait aussi, on l'a découvert après coup, toutes ces femmes enfermées à domicile, dans des contextes très violents.
Ouais. Et donc un grand risque, et on peut pas les surveiller, non, mais les suivre.
Ouais.
Enfin, oui, ça a dû être un cauchemar à vivre à la Maison des Femmes. Ça.
Et on voit ces femmes encore qui continuent à venir à la Maison des Femmes, passer ces soignantes et continuer à appeler leurs patientes et à prendre soin d'elles. C'est admirable, admirable.
Comme elles peuvent, ouais.
Ouais, avec les moyens du bord et aussi en contournant plus ou moins la loi. Ce que j'ai bien aimé dans la Maison des Femmes, c'est que tout n'est pas complètement en règle, mais au fond, on œuvre pour le bien commun et c'est ça qui compte. C'est la Maison des Femmes, c'est en salle mercredi. Un très joli film de Mélissa Godet avec Pierre de La Donchamp, Juliette Armanet, Jean-Charles Cliché, Laurent Stocker de la Comédie Française et Karine Viard, Eya Hidara, et ainsi que toutes les deux, Oulaya Amamra et Laetitia Doche. Et tout de suite, dans la bande originale, c'est au tour de Rebecca Balestra.
Bonsoir, c'est moi, la Balestra, la plus grande actrice que le dieu de la scène vous ait donnée. Et contrairement à Annie Girardot, César, je sais que je manque au cinéma français, mais à moi, le cinéma français ne me manque pas. Si c'est pour jouer des femmes-enfants aux voix de clopeuse, je serais pas la Balestra, je serais la Beaujean. Et c'est pas parce que le milieu tire la chasse sur toi et qu'après 10 ans, l'industrie te ressort des ténèbres à coups de débouchiotte qu'une actrice doit être reconnaissante. À Paris aussi, on a essayé de couler la Balestra pour la foutre aux égouts. Eh ben, j'ai bu la tasse, mais j'en suis sortie. Et Daniel, arrête de foutre tes tampax dans les valters. Ces pauvres actrices désespérées pour qui tourner ces vivres, qui sont prêtes à tout jouer. Le vent dans Hurlevent, les buissons du Super Bowl. Remplaçant dans la bande originale. C'est bien, Morgane, tu t'accroches, mais tu devrais pas. Ces groupies aux abois, elles vont jusqu'à devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre du chien, du procès du chien. Eh ben, la Balestra, elle court pas les castings, c'est les castings qui lui courent après. Et Laurent Grégoire, arrête de faire biper mon téléphone, je t'ai dit que je voulais pas d'adéquate. C'est un sketch, Laurent, appelle quand même, j'ai pas d'agent. Les propositions de lèche-cul, moi j'en ai par paquet. Et moi, je suis comme Laetitia, j'adore qu'on me broute la toche. J'ai fait une allitération avec Laetitia Doche, cherchez plus, vous êtes trop con pour ma poésie. Pas plus tard qu'aujourd'hui dans mon courrier. Je vous aime. Épousez-moi. Génie. Pas drôle et vulgaire. Ah non, celle-là, elle est pour toi, Emma. Et contrairement à vous tous ici, dans mes références, j'ai pas besoin de mentir sur ma date de naissance. La Balestra, c'est une icône, elle est sans âge, elle peut tout jouer. La minette à la vieille chatte. Et comme dit si bien Morin, l'âge, c'est dans la tête. Enfin, il est surtout sur ta gueule, Daniel. J'ai pas besoin de me montrer, moi, je suis partout. Et si je suis pas au français, c'est uniquement que je voulais pas d'un nom en tire-bouchon. Rebecca Balestra de la Comédie Française, c'est overrated. Comme Leïla Kadour Boudadi.
Merci.
Et je parle de vous, pas de ton de famille. Allez, j'enlève mes lunettes de star. Ce serait dommage de vous priver de mes deux émeraudes. La Balestra, elle a les yeux de Lorraine Bacall, le talent de Meryl Streep et le pif d'Adrienne Brody. Comprenez, je suis une machine à récompense, comme Timothée Chalamet, une pute à prix. Alors, mesdames, qu'es-tu de son ? Emma Stone, Rose, Burne et compagnie, leurs Oscars, elles peuvent s'asseoir dessus. Je le fais avec le mien tous les soirs, je peux vous dire, ça fait du bien par où ça passe. Attendez, je vais l'avoir quelque part. Mon Oscar, c'est comme mon Jules, je voyais jamais sans. Non. Attendez, ça c'est mon spermicide. Mon stérilet. Ah, voilà la bête. Tiens, Daniel.
Non.
Essaye-moi ça. Mais attention, tu me le rendras. De toute façon, il y a mon nom dessus, ainsi que mes MST. Allez, c'est dans la boîte, Leïla. Coupez-moi ça. Et je parle de la chanson d'Oldolaf, c'était un carnage.
Bravo, Rebecca.
Waouh.
Rebecca Balestra.
C'est Jacqueline à Benoît-Besson, ce journée suisse du théâtre. J'ai peur que très rapidement, elle parte sur France Culture.
On s'intéresse à vos musiques, mais avant ça, à celle du film. Je vous disais, ce chœur, ce film choral. Avec ces pulsations de vie comme ça qui viennent rythmer la maison des femmes. Et la musique dans vos vies, Laetitia et Oulaya. Laetitia, on commence avec vous, milieu des années 2000, vous écoutiez.
Bah, il débarquait, hein.
Vous étiez fan ?
Mais c'était une énergie qu'on n'avait jamais vue, quoi. Il était grotesque, il faisait peur, c'était comme un peu un fou dans les pièces de théâtre. Et ultra vulgaire comme Rebecca.
Merci Laetitia.
Bah, parlons de l'école justement. On vous retrouve à Lausanne dans ces années-là, à la Manufacture. Qu'est-ce que c'est comme école, la Manufacture ?
Bah, la Manufacture, c'était une école qui se créait à l'époque. Moi, c'était la deuxième année. Il y avait des prospectus qui traînaient à Paris où on cherche des mauvais élèves. Et là, vous voyez ce que les mauvais élèves sont devenus puisque Rebecca était aussi à l'école. Donc c'est une école où moi j'ai tout fait péter en fait. Hein. Franchement, on avait les clés, on travaillait la nuit, le jour. On buvait, enfin...
Mais c'est une école de quoi, pardon?
Ah pardon, oui, alors...
Moi j'aime bien le concept, mais qu'est-ce qu'on y fait?
Théâtre au sens large, parce que figure-toi, moi j'avais des cours d'alcool avec mon prof de danse.
Comment ça?
Le matin, il nous...
Oh, Lina, fais pas semblant, Lina. Comment ça, l'alcool?
On a eu des cours d'alcool, des cours de nu. Cours d'alcool, 9h du matin, vous devez boire ce bouchon de poire et aussi ce verre de champagne et danser, voir que ça change au niveau des sensations. C'était quand même génial. Moi, ça m'a ouvert la tête. Hein. Alors, je sais que c'est pas du tout dans l'esprit du temps, mais
non,
j'adore.
Ouais. Ok.
Et ici, on appelle ça France Info.
T'as ces expériences-là aussi, Rebecca?
À mon avis, le prof a été viré depuis.
Et toi, d'où ça vient, alors?
Mais c'est vrai que Laetitia est une légende à la Manufacture.
Ah bon?
C'est vraiment c'est la légende. On parlait encore de son solo dans lequel elle s'est mise un Kinder surprise dans le vagin.
Ouh là là, oui, c'est vrai.
Laetitia, c'est une très grande inspiration pour moi aussi.
Oui, voilà, merci beaucoup.
Donc, ben voilà, si vous cherchez une école pour vos enfants, il y a la Manufacture, vraisemblablement.
Si vous cherchez des Kinder.
Lausanne.
Lausanne, acting et confiserie.
J'avais oublié ça.
Moi, j'aime cette émission parce qu'on va de surprise en surprise. N'hésitez pas, Oulaya, c'est à vous. S'il y a une confession à faire, on est dans les années 2000, vous écoutiez.
Laisse-moi kiffer la base avec vos mecs. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête.
Laisse-moi kiffer.
J'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la base avec ce que j'aime.
Non.
Alors, Oulaya, pourquoi Diams, même si ça me semble évident?
Franchement, pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de dire pourquoi?
Ouais, si, parce qu'il faut dire son amour parfois.
Honnêtement, parce que pour moi, c'est la plus grande artiste de tous les temps, la plus grande rappeuse. Enfin voilà, je trouve qu'elle a révolutionné. Ouais. Elle était toute seule. D'ailleurs, je crois pas qu'elle ait été remplacée. Et non, moi j'ai énorme admiration.
Sacré plume.
Et même pour la femme que c'est. Voilà, tout, j'aime tout.
Et on vous retrouve dans ces années-là, Oulaya, avec l'association Mille Visages.
Oui.
Où vous continuez d'ailleurs de vrai, je crois.
Oui, complètement, Mille Visages. Je continue à donner de temps en temps des cours et transmettre un peu ce qu'on m'a transmis. C'est une association qui m'a permis d'y croire.
Ouais.
Et je crois qu'on a besoin d'espoir aussi et de quelqu'un des fois qui nous dit juste... t'es sur la bonne voie.
Ouais.
Et voilà.
C'est d'ouvrir un peu ce monde du cinéma aussi à tous.
Oui, c'est
montrer
ça.
Qu'il y a des passerelles possibles et que si on connaît pas ou si on n'a pas sauté sur les genoux d'un réalisateur quand on était petit, potentiellement on peut quand même y arriver.
Exactement. En fait, ça démocratise le milieu du cinéma qui peut être un peu fermé et donne accès à des jeunes de pouvoir accéder à des castings, à des masterclass.
À la Comédie Française.
À la Comédie Française.
Bien sûr. Bah oui, c'est beau, c'est beau. Bah, donc maintenant il y a une sorte de grand pédigré qui est associé à Mille Visages, les noms qui sont passés par l'association et qui ensuite ont grandi et qui tendent la main, j'imagine, à leur tour dans les années 2000-2010 pour vous, Laetitia.
Oh waouh.
Waouh. J'envoie le clip directement.
Ah ouh.
Ouais.
Moi je pense au Kinder maintenant depuis.
Ah, je sais ça.
Alors pourquoi
qu'est-ce qu'elle était sexy Shakira, ouais. J'adorais cette chanson, j'avais appris la choré en fait.
Elle était dans une cage, non, dans le clip.
J'adore. Je suis désolée, moi j'ai des fantasmes un peu à l'ancienne.
J'entends.
Hein.
Ouais.
oui, ça, elle était dans une cage, mais il fallait pas la laisser sortir
ouais,
parce que
bah
c'était
ouais.
une she-wolf.
Mm-hmm.
Et on vous retrouve dans votre seul en scène et vos débuts au cinéma 2010, c'est à peu près cette période-là où ça marque un peu le début.
Ouais, c'est la rencontre avec Justine Triet dans un concert. Et effectivement, mon solo Laetitia fait péter. Avec le nom de l'endroit après, Laetitia fait péter Beaubourg.
Ouais, 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 c'était une sorte de parodie de stand-up, vous dites.
Ouais, c'était en fait, c'est que quand je suis retournée à Paris, je trouve c'était en 2010 et c'était pas du tout la même époque que maintenant et les gens étaient très cyniques et dans les soirées tard la nuit, ils tapaient beaucoup sur les minorités. Donc c'était un autre temps et je me disais mais qu'est-ce qui se cache derrière ?
Ouais.
Donc j'avais juste fait une humoriste qui a fait une liste de blagues qu'elle pense qui sont drôles sur les minorités. Donc les gens ça les mettait super mal à l'aise et après ça se terminait très grave. Enfin bon, je peux pas vous raconter.
Ah, si.
Non, je raconterai à Rebecca.
Voilà, c'est ça. Oulaya, vous écoutiez.
Et j'ai dû côtoyer le pas. C'est pas papa, maman, les gars, désolé.
Section d'assaut.
Section d'assaut, ouais.
Mais oui.
Vous connaissez pas ? C'est pas Maître Gims qui chante, là ?
Si, si, si. En fait, il avait un groupe qui s'appelait Section d'assaut.
Ah, ouais.
Et c'était le début. Ouais. Moi, j'avoue, c'était ma période Section d'assaut à fond. Je trouve qu'ils ont révolutionné un truc aussi. Avant eux, il n'y avait pas. Tu sais, ils ont ramené. Enfin, je sais pas, il y avait un peu de... Je trouve qu'il y avait du rythme, en même temps, ils faisaient des textes forts.
Ouais, c'était engagé.
Ouais, c'était engagé. Ouais.
On vous retrouve dans Fracture,
ouais.
d'Alain Tasma. C'était... Alors, l'histoire raconte, comme souvent, que vous allez à l'audition, mais plutôt pour accompagner votre frère.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Il faut toujours y aller en famille, donc c'est un conseil. Il faut y aller avec les copains, les copines, les frères et les sœurs.
C'est ça, et c'est Elsa Pharaon à l'époque qui me dit « Attends, je vais te prendre en photo, et puis voilà, c'est un jour, on a besoin, on t'appellera. » Et un jour, elle a appelé sur le téléphone de ma maman, et elle a dit « Voilà, il y a un casting, et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu accéder à ce milieu-là. »
Et votre mère a bien réagi ?
Ma mère, elle a bien réagi, ouais. Elle m'a accompagnée, je me souviens, c'était à Aulnay-sous-Bois. C'était si loin et c'était hyper impressionnant parce qu'en plus il y avait plein d'acteurs dont Samy Seguir qui venait de faire Neuilly sa mère,
oui.
Voilà, qui avait bien marché et j'ai voilà, on a passé je sais pas 4-5 étapes, on appelle ça des callbacks au cinéma.
D'accord.
Et ils te rappellent, donc c'est hyper éprouvant pour jouer. Franchement, j'ai peut-être 4 phrases dans le film.
C'est cher payé, oui.
Oui, mais bon.
Mais ça valait le coup.
Oui.
2016-2017, Laetitia.
Wow.
C'est pas que live à ciné, c'est ça.
Ouais.
Love is you.
Jeff Buckley dans ce live.
Quel génie.
Et on vous retrouve dans Jeune femme. De Léonore Serrail, c'est vrai qu'elle cherchait, elle avait écrit ce rôle pour Patrick Devers.
Ah, elle a dû beaucoup s'inspirer de Patrick Devers pour l'écrire, ouais. Mais c'est marrant parce que vous passez Jeff Buckley par rapport à, ouais. au personnage de jeune femme, c'est ça, c'est un espèce d'électron libre. Et ce qui est génial au niveau du jeu, c'est qu'il y a besoin de que ça bouge tout le temps, quoi. Et comme lui, il faut être comme Patrick Devers, comme Jeff Buckley, bouger tout le temps, ne pas avoir d'identité fixe. Et c'était ça, ce personnage. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, ça, ce
et
rôle.
Comment vous l'avez travaillé ? Comment vous travaillez vos personnages en général ? Je disais que vous aimiez bien, en amont, continuer à vivre dans la vie comme votre personnage, essayer de ne pas vous en détacher.
Ça dépend des personnages,
ouais.
Mais celui-là, jeune femme, ouais, je marchais dans la rue habillée comme elle, comme si j'avais plus d'argent et je regardais les vitrines, je regardais les gens, je regardais comment ils me regardaient parce que mon attitude, elle devait sûrement avoir changé avec ça en tête. Ouais, je travaillais, mais on travaillait beaucoup avec Léonore. On regardait des films, on parlait de tout, de rien. C'est une expérience de travail trop belle.
Oula, il y a dans ces mêmes années, vous écoutiez.
Pourquoi c'est pas des...
La crime.
La crime. Tout le monde veut des lovés. Ouais, c'était ma période divine.
Divine, ça, c'est le film, hein. C'est pour vous dire.
Oui.
Pour ceux qui comprendraient.
Oui, pardon, pardon.
C'était ma période où j'étais merveilleuse.
En toute simplicité, c'est la période trop géniale.
Non, c'était la période où j'avais tourné. Donc, c'est mon premier film, Divine. Et je jouais un personnage d'Ouda Benyamina. Je jouais un personnage d'Ounia qui était assez. Qui avait un peu une rage. Comme ça, qui voulait devenir riche.
Ouais, elle voulait de l'argent.
Elle voulait de l'argent. Ouais. Et j'avoue, la crime, cet album, il m'avait beaucoup inspiré pour moult raisons. Mais surtout, le fait de rêver grand. Lui, dans cette chanson, il parle des Seychelles, mais pourquoi pas. Et il y a une scène dans Divine où vraiment on se dit, mais imagine en fait, imagine on y est.
Oui. Et comme Laetitia, vous devenez le personnage à la
je
maison.
Je deviens le personnage à la maison, à l'école surtout. Parce que moi, en fait, à l'époque, j'écoutais pas forcément trop. C'est vraiment grâce au film que j'ai commencé à écouter du rap. Et je sais pas, je me suis sentie pousser des ailes. J'ai commencé à mal parler au prof et tout. N'importe quoi. Ma mère, elle m'a dit, mais où est ma fille, quoi. Et je me suis fait virer carrément.
Ah oui, d'accord. Pousser des ailes comme ça, pousser les murs, continuer à se battre, ben ça correspond bien à Rada Atem qu'on accueille. Bonjour Rada. C'est une joie de vous avoir à nouveau, parce que vous êtes déjà venue dans la bande originale, pour parler de ce film La Maison des Femmes. Je vous représente, gynécologue obstétricienne. Vous avez fondé en 2016 la Maison des Femmes à Saint-Denis, qui est incarnée là par, pas la Maison des Femmes, mais vous, par Karine Viard. Vous avez publié en 2023 aux éditions de La Martinière, Avorter, un droit en danger, point d'interrogation, avec toutes ces réflexions que vous menez dans votre quotidien, Rada, bienvenue. C'est vrai que vous avez été dubitative au début à l'idée d'avoir un biopic de votre vivant.
C'est normal, non? C'est une drôle d'idée.
C'est une drôle d'idée, mais c'est une super idée.
Aussi.
Qu'est-ce qui vous a convaincu de dire à un moment, comme vous cherchez toujours à faire parler de la Maison des Femmes, a priori on vient vous voir pour vous proposer un projet de film, vous dites banco.
Non, parce que le pitch initial, c'était « on veut faire un film sur vous ». Et ça, c'était non. Mm-hmm. Donc après, on a tout petit peu échangé avec Mélissa. Et ce qui m'a convaincue, c'est qu'en fait, elle avait très très bien compris que la véritable héroïne, c'est pas moi, c'est la maison.
C'est la maison, ouais. D'ailleurs, le personnage qui est proche de vous, qui est incarné par Karine Viard, ne s'appelle pas comme vous, ne vous ressemble pas, il n'y a pas
de... Non, mais elle a un nom libanais quand même. C'était sympa, Diane Khoury.
ça vous a fait plaisir.
Oui.
Vous dites, enfin, le personnage de Karine Viard le dit dans le film, en gros, ça revient parfois à vider la mer à la petite cuillère, mais ça vaut le coup.
Évidemment que ça vaut le coup. Il y a 10 ans, quand on a ouvert cette structure, on ne savait même pas s'il y aurait des patients. C'était un pari. Et le fait que beaucoup, beaucoup de gens, très rapidement, viennent nous voir en disant « Je vais faire la même chose, comment t'as fait ? Est-ce que tu peux m'aider ?» Ça a été tout à fait étonnant. Et puis le fait que les patientes viennent tellement nombreuses qu'au bout de 6 mois, on peut s'agrandir, c'est ce que raconte le film. Mmh. Et ça aussi, c'était pas prévu au programme. Et alors le film, c'était vraiment pas prévu au programme.
Et on se vend mal, c'était ça un peu le constat de dire il faut qu'on fasse parler de nous, il faut qu'on se reproduise à un moment où on est menacé de fermeture. Au contraire, il faut prendre vraiment l'option inverse, c'est se développer. Ça c'est... vous le dites, vous avez consacré 10 ans de votre vie à ce combat, avec des enfants plus grands, donc moins de culpabilité, parce que c'est du 24/24, et plus de temps, ouais, et c'est du 7 jours sur 7.
Oui, alors, on l'a pas pensé comme ça. Il fallait s'agrandir, c'était évident.
Mais l'argent,
il fallait se dupliquer. Ça, c'est les autres qui sont venus nous chercher pour qu'on les aide à se dupliquer.
D'accord.
On n'a pas ouvert la Maison des Femmes en se disant, tiens, on va faire un modèle divin, national, tout le monde va nous courir après. Pas du tout. Et c'est le succès, en fait, c'est les patientes qui ont fait que ce modèle est devenu une évidence et que les gens ont souhaité le répliquer.
Et comment on fait pour passer de celle qui opère, qui fait des clitos de compétition, par exemple, dans le film, à rencontrer des mécènes privés, des politiques, raconter, pitcher l'histoire, c'est un peu la danse des 7 voiles, pour rapporter de l'argent, pour que la structure puisse continuer à tourner, en fait.
L'équipe se moque de moi parce que ma phrase culte, c'est « je vais aller leur faire la danse du ventre ».
Ah, c'est vrai. Bah, voilà, je ne savais pas. Voilà.
Donc elle me dit « ah, tu vas faire la danse du ventre ».
Ben, en fait, vous dansez sacrément bien, hein. Vraiment, faut qu'on prenne des cours avec vous.
On apprend en fait à changer de métier. Quand tu comprends que si tu veux que ce truc auquel tu crois très fort existe, eh ben il va falloir que tu fasses autrement, parce que en effet nos métiers de médecins ne nous apprennent absolument pas à nous vendre,
non.
à aller discuter avec les politiques, à les convaincre. Donc ça, il a fallu que j'apprenne. J'ai fait beaucoup de choses inutiles, hein, je le reconnais. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais quand tu sais pas, tu essayes tout. Tu te dis tant pis, sur les 18 trucs que j'ai fait ce matin, il y en a peut-être un qui va marcher. Ouais. Et c'est comme ça que ça a fini petit à petit et tout doucement. Par fonctionner, par prendre.
Et ça, c'est dans un emploi du temps où il faut continuer à voir les patientes, continuer à avoir une vie de femme. Hein. Là, dans le film, on voit Karine Viard, c'est la piscine, c'est aller faire des longueurs. Je ne sais pas si c'est votre truc à vous aussi.
C'est mon truc. Elle m'a tout copié.
Mais on voit que c'est des temps pour elle, mais c'est aussi des temps de penser. Tout d'un coup, elle est quand même le capitaine de ce navire. Elle est accompagnée du personnage de Jean-Charles Cliché, qui est très marrant, qui doit gérer un peu les projets, mais on le sent lui aussi un peu... Bon, voilà.
Mais en même temps, c'est lui qui annonce qu'il va falloir se vendre, qu'il va falloir marketer.
Voilà, un homme soutient un autre homme. Bienvenue.
J'ai vu votre film, ça peut.
Non, non, bien sûr, c'est lui qui lui explique, oui. Parce que lui, c'est son métier, quand même, il est là pour ça. Mais oui, la piscine, c'est très important, parce qu'il faut des moments aussi où tu fais abstraction de tout, et tu te dis, bon, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire? Il y a des moments où on a l'impression d'avoir tout essayé, que plus rien ne fonctionne, et on est à deux doigts d'abandonner. Ça m'est quand même arrivé.
Ouais, et dans le film, on voit la difficulté, le personnage d'Inès le souligne, elle leur demande, mais comment est-ce que vous faites pour encaisser tout ça? Comment vous vous blindez? Et c'est la réponse qu'apporte votre personnage, Laetitia, c'est que c'est collectif, c'est tous ensemble.
Oui, c'est qu'on ne porte pas ça nous toutes seules, mais on porte ça toutes ensemble.
Les patientes et les soignantes.
Ouais, voilà, les patientes, les soignantes. Et puis quand ça marche pas, on va se bourrer la gueule.
Ouais, c'est ça.
Autre phrase culte.
C'est vrai pour vous aussi, Rada, ça, ces moments de découragement.
De bourrer la gueule. Non, je bois pas comme Karine, je perds pas le contrôle. Mais oui,
ça biche.
Ça balance.
Non, mais oui, bien sûr. D'abord le collectif. Et ensuite, la joie. Mm. Parce que ce qui aide à tenir aussi, c'est de faire des choses avec l'équipe. Parfois, on ferme la maison et on va dans un très bel endroit, on discute, on travaille. Le soir, karaoké obligatoire. Et le matin, piscine obligatoire.
Ouais, c'est ça. Avec un karaoké, ça m'a fait beaucoup rire. Masculinité toxique, années 80, pour récolter de l'argent, ça m'a fait beaucoup rire cette séquence avec Eya Hydara qui propose de mettre tout Sardou, Requiem pour un fou et toutes les chansons comme ça qui pourraient... permettre de récolter de l'argent dans ce cadre-là. On parle de la Maison des Femmes, mais plus concrètement, j'ai dit à peu près une cinquantaine de personnes qui y travaillent, à Saint-Denis en tout cas. Est-ce que c'est exact? Quelques chiffres peut-être, Rada, pour nous donner une vue de l'ampleur de cette maison?
Alors oui, il y a à peu près 50 personnes qui travaillent, mais pas toutes à temps plein. Il y a des gens qui viennent une fois par semaine, d'autres qui sont là tout le temps. Et puis il y a toutes les animatrices d'ateliers.
C'est ça.
Qui viennent une fois par semaine pour leur atelier, que ce soit à karaté, le magnifique atelier photo qui est montré. Et c'est la vraie photographe de l'atelier qui a fait les photos des actrices. Et ça, c'est aussi un atelier qui redonne une énorme estime de soi aux patientes.
Avec un livre, hein, des femmes dans une maison, édition Iconoclaste, avec une exposition aussi à découvrir bientôt. C'est toujours l'occasion de soutenir en achetant le livre La Maison des Femmes, bien entendu, Rada.
Il y a un livre qu'elles avaient fait avant, c'est Réparer l'intime, qui est très très beau et qui raconte aussi ces échanges entre des art-thérapeutes et puis des femmes, et comment est-ce qu'elles avancent ensemble, en fait.
J'ai été très étonnée dans le film de découvrir une séquence où il y a un atelier bracelet-collier, et l'une des patientes explique qu'elle préfère pas rapporter ce collier à la maison.
Ah oui, parce que ça évite les ennuis, comme elle dit. C'est-à-dire que quand vous revenez avec un objet, ça va être tout de suite la suspicion. Qui te l'a offert? Tu me trompes? Ou bien tu as dépensé l'argent du ménage pour acheter ce collier. Donc, pas d'embrouille. Tout reste à la maison. On a le même problème avec les certificats, par exemple, les certificats médicaux. Parfois, il ne faut pas les donner aux patientes, parce que si leur mari fouille dans leur sac, ça va mal aller. Donc, on conserve tout informatiquement pour le jour où ça sera utile.
Ça, vous l'avez appris sur le tas ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai appris sur le tas parce que ça a changé. Mais pour les gens de ma génération, il n'y avait aucune formation aux violences. Et même pour une gynécologue, aucune formation sur l'excision. Donc tout ça sur le tas. Aujourd'hui, les jeunes internes, Inès notamment, bénéficient de cours dédiés.
Et on a toutes découvert dans le film qu'on pouvait réparer un clitoris, par exemple. Ça aussi, on a une sorte de méconnaissance sur le sujet, Rada.
Oui, parce que on n'est pas très concerné. Mais les femmes qui ont subi l'excision, souvent elles se passent le mot, le bouche à oreille fonctionne pas mal. On répare, c'est-à-dire qu'on le réexpose. Oui. Karine explique très bien, quand on coupe, ça se rétracte. Oui. Et donc notre travail consiste simplement à le remettre superficiellement, à le fixer là. D'abord parce que pour la femme, ça lui redonne une anatomie presque normale. Oui. On peut pas transformer une femme excisée en une femme qui ne l'a jamais été. Mais au moins, elles ont un volume, et là, c'est, pour elles, c'est magique. Le nombre de commentaires sur le volume que les patientes font est fascinant. C'est-à-dire, je le regarde, je le touche, j'en peux plus, c'est trop beau, j'ai envie de le regarder tout le temps. Et puis, il est plus superficiel, donc il est plus facile à stimuler, et les sensations reviennent, ce que l'actrice montre divinement bien, sûr, avec cet éclat de rire culte aussi.
La découverte du plaisir féminin. Rada, que vous souhaitez, et surtout, comment vous aider, Rada Hatem, avec la maison des femmes?
Eh bien, c'est très simple. D'abord, faire pression sur le politique pour que les maisons soient mieux dotées, pour qu'on puisse en ouvrir aussi dans les régions où il n'y a pas beaucoup de médecins, les zones rurales où il y a énormément de féminicides, parce que plus d'isolement, tout le monde connaît tout le monde, le coupable est parfois très important, donc personne ne va oser l'attaquer. Donc ça, il faut le faire. C'est un gros boulot, parce qu'on ne peut pas ouvrir une grosse maison des femmes à 2000 exemplaires, mais par contre, très loin, il y a des femmes qui ont des besoins. Et au-delà du politique, nous aider en nous donnant de l'argent, des talents, en nous invitant à parler de notre travail. Tout est utile.
Tout est bon à prendre. Merci beaucoup, Rada Hatem, d'avoir été avec nous. Tanguy Pastureau.
Coucou.
Coucou, de quoi on parle tout à l'heure?
Eh bien, d'une enquête de l'Est Républicain, le journal, sur un prof de lettres de fac qui apparemment s'est remis à lui-même une médaille qu'il a en fait inventée. Tout ça parce qu'en France, on adore les médailles, les distinctions.
Restez avec nous sur Inter. C'est le retour de la bande originale sur France Inter avec Rebecca Balestra, avec Emma Beaujean, Morgane Cadignan, Daniel Morin,
coucou Morgane,
Tanguy Pastureau, Oldelaf est avec nous aussi pour accueillir à nouveau nos invités, Laetitia Tache et Oulaya Amamra.
Bonjour.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour.
Ce bonjour en chœur, merveilleux, toutes les deux. Ce chœur des femmes, on en a parlé avec cette musique qui accompagne le film. La maison des femmes en salle ce mercredi, vous incarnez respectivement Inès, une jeune interne, et vous, Manon, une jeune maman qui est aussi sage-femme de l'unité violence dans cette maison des femmes qui accueille les femmes qui rencontrent des difficultés, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de viols, d'excisions, des femmes de tout horizon, de toutes conditions sociales, de tout âge aussi, qui ont des chemins de vie dont elles témoignent. On se rend bien compte à quel point ces femmes sont terrifiées, l'estime de soi est complètement partie, et elles se rendent même parfois responsables de ne pas avoir résisté, de ne pas avoir lutté. C'est des moments hyper forts, et c'est des témoignages très très puissants dans ce film de la Maison des Femmes. J'ai eu l'impression, je parle d'un film choral, mais je me demande comment s'est passé le tournage. Toutes ensemble, toutes ces femmes ensemble, pas que des femmes, hein, bien sûr, mais beaucoup.
Il y avait deux choses, il y avait tous des moments où on était l'équipe en réunion, c'est toutes les réunions de soignants qui sont un truc, qui était... En fait, ce qu'on sentait, c'est que tout le monde était très, très impliqué de jouer dans ce film, donc il y avait une concentration, quelque chose de très fort, je trouve, entre les acteurs et les actrices. Bon, il y a eu quelques vidéos de chats ou je sais pas quoi, mais le fond du truc, on sentait un engagement très profond. Et puis, il y avait aussi toutes ces femmes qu'on a croisées en consultation, qui venaient juste pour une demi-journée et qui nous ravissaient, en fait.
Oui, complètement. Il y avait un vrai, je trouve, c'était un vrai travail d'équipe aussi. J'avais l'impression, moi, d'être vraiment une troupe, tu sais, comme au théâtre. Et il y avait une super ambiance aussi, c'est bien de le dire. Mais Lisa, c'est la chef d'orchestre à chaque fois, le metteur en scène. C'est lui qui donne le là sur un film. Et là, Mélisa, il se trouve qu'elle voulait que tout se passe bien, de manière... l'équipe est paritaire, donc même l'équipe technique qu'on ne voit pas forcément dans le film, il y a beaucoup d'hommes et de femmes. et c'était important pour la productrice aussi que ce soit dans un climat de sécurité, de bienveillance, qu'il n'y ait aucun abus de pouvoir. Et ça, ça fait plaisir aussi sur les tournages.
C'est quoi, ça soit cohérent avec le film que vous êtes en train de tourner.
Complètement.
Joli film de Mélissa Godet, pardon, j'ai dit Mélissa tout à l'heure, qu'elle m'excuse, qui signe aussi le scénario. Et en effet, au poste de responsabilité, on voit cette alternance homme-femme et cette parité respectée dans le film Jean-Charles Cliché ou encore Pierre de la Donchamp, pince sans rire, comme psy qui se fait un peu harponner par ces filles-là qui l'environnent. Et aussi Laurent Stocker de la Comédie Française qui incarne cet inspecteur de l'IGAS qui lui aussi va se rendre compte à quel point c'est une force qui va, cette directrice de la Maison des Femmes et derrière elle, toutes celles qui l'accompagnent. C'est mercredi en salle et c'est très joyeux. Ne vous inquiétez pas, vous ne sortirez pas de cette projection en vous disant « Oh là là, au secours, loin de là ». Ça met vraiment du baume au cœur. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau.
Je ne sais pas si tous ici vous avez des diplômes, je ne pense pas parce que je vous écoute régulièrement. À part Leïla, peut-être qu'il y a pas mal de refs. Hein. Moi, ouais. Je n'utilise pas Siri ou Alexa, j'utilise Leïla. Quand je veux avoir une info dans le bureau, je fais « Dis Leïla, qui a écrit Le Rouge et le Noir déjà ?» Elle répond « Bah Stendhal, pauvre buse. » Je dis « Ok, dis Leïla, qui a écrit Les Contemplations ?» Elle répond « Bah Victor Hugo, sombre con. » Je dis « Ok, qui a écrit J'ai vu ta mère sur le chat de roulette ?» Rien. Et là, je dis « Max Boublil, ha ha, on fait moi sa maline, hein, 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 hein. » Bon, en général, ensuite, Oldelaf me ceinture avec sa peluche à l'effigie de Ponche le macaque et me traîne à l'infirmerie où on me calme. Voilà ce qu'il faut pas faire pour avoir du Xanax les jours où Lisa Delmoitié est absente. Moi, pour ce qui est des diplômes, j'ai un BTS tourisme. J'ai pris les études qui définissaient le mieux mon parcours de vie. J'aurais adoré faire de grandes études. Pas tellement pour les faire d'ailleurs, mais pour me voir en train de les faire. J'aurais eu des lunettes en prépa, j'aurais porté des pulls à col roulé, j'aurais fumé des roulés en disant des trucs comme mon premier choc littéraire. Je veux dire, ça a été Tolstoï. J'avais 10 ans et demi. En réalité, j'ai appris il y a 6 mois qui était Tolstoï. Avant, je pensais que c'était un jouet sexuel russe. Mes chéris, je suis là, pas la peine de sortir ton Tolstoï. Voilà, vous voyez ce métier d'humoriste, ça consiste à salir tout ce qui est beau. Hein, je sais vraiment pas ce que le public me trouve. Et hier, j'étais sur sapiosexualité.fr, le site des gens qui se caressent en regardant des photos de neurones, quand je suis tombé sur un article à propos de Florent Montaclair, professeur de lettres à l'université de Besançon, sommité dans le monde des lettres. Il connaît les 26, ok? Il peut éclater tout le monde à la roue de la fortune. Il est spécialiste de Jules Verne et des vampires. Les vampires sont ces êtres qui fuient à la vue d'une gousse d'ail. Vous faites un aïoli, vous les voyez plus jamais. Il n'y a pas de vampire à Marseille. Hein. Il y a juste Jules qui n'a jamais saigné son public. Si je mets de côté ce qu'il a fait aux oreilles des gens. Oui, non. Mépris de classe, ah, voilà. Ouais. Comme j'ai pas de diplôme, j'attaque ce qui est populaire. Et je fais croire que moi, j'ai des goûts super pointus. Vous avez écouté le IP solo de DJ Déprime, le DJ des paysages sidérurgiques de la vallée de l'Orne en side project qui vient de produire Hakuna Odessa, le groupe de migrants africains en panne de GPS qui se sont retrouvés comme des cons en Ukraine. Bref, en 2016, ce professeur reçoit une médaille à l'Assemblée des mains de Pierre Jox, un ancien ministre qui me faisait peur quand j'étais enfant parce qu'il avait des sourcils énormes. Ça lui prenait la moitié du front. Hein, ça lui faisait comme un grillage devant les yeux. Techniquement, il a passé sa vie en burqa. Ce jour-là, 8 juin 2016, Florent Montaclair reçoit la médaille d'or de philologie. Dis, Leïla, qu'est-ce que la philologie ? Je réponds parce qu'on ne met pas dans l'embarras une star de l'antenne. You don't fuck with nos impôts. La philologie, c'est la discipline consacrée à l'étude historique d'une langue par l'analyse critique des textes. Je le lis parce que je l'ai noté, mais je suis incapable de vous expliquer cette phrase. Si je lis cette phrase 3 fois, je saigne du nez. Si je la lis 10 fois, je m'auto-trépane. La médaille d'or de philologie est donc remise à Montaclair par Pierre Jox, devant un parterre de célébrités dont Claude Bartolone. C'était en 2016. Hein. Ce monsieur était président de l'Assemblée, il était célèbre en 10 ans. Ouais. Les choses changent. Ouais. Hein, en 2016, le gros tube, c'était rêver de la chanteuse Tal, bon, qui aujourd'hui travaille à la Micaline de la gare de Lyon. Donc, belle médaille, professeur renommé, sauf que l'Est républicain a enquêté. La médaille a été remise par un institut du Delaware, aux États-Unis, dont le site est truffé de fautes et est hébergé en France. Là, vous vous dites, ça sent l'embrouille. Vous avez envie de sortir une redingote pour vous saper comme Sherlock Holmes, avec rien en dessous, et moi je pourrais filmer pour mon compte OnlyFans. Et c'est pas fini, le directeur de l'institut, un certain Martin Balmont, est présenté par Montaclair comme étant un écrivain russe qui a sorti 4 romans, tous publiés aux presses de l'UNESCO de Besançon,
dirigé par Montaclair lui-même. Ah. Il se pourrait que Balmont, ce soit lui, en fait. On dirait une fin à la Scooby-Doo. Quoi, monsieur Bardella, c'est vous qui vous cachez sous ce déguisement de Pascal Praud depuis ces 20 dernières années? Eh oui, quand j'ai commencé, j'avais 7 ans, j'en peux plus. Bien joué, Scooby. Ouh.
Imitation.
Voilà. D'autant que l'UNESCO précise qu'elle n'a pas d'antenne à Besançon, ce qui paraît logique. J'adore Besançon, mais il n'y a pas non plus de succursale de la Maison Blanche et OpenAI n'est pas installé son siège récemment, c'est Besançon, quoi. Voyez, tout ça pourrait être un montage auquel tout le monde a cru. Et pourquoi ce prof aurait fait ça? Simplement parce qu'une médaille, c'est prestigieux. On vous regarde pas de la même manière quand vous avez une médaille. Je le sais, puisqu'en 82, au ping-pong, j'ai fini deuxe et j'ai eu la médaille d'argent du club des pongistes de la Bête Douarnenez. Et ben, le lendemain, Sandrine Calvez, elle m'a dit bonjour, hein, avant la médaille. Elle me roulait dessus avec son bicross, cette connasse. La médaille d'or de philologie en 2016 était décrite comme équivalente à un prix Nobel, voyez? Et apparemment, ça n'existait même pas, selon l'enquête de l'Aise Républicain. Mais quand on te dit médaille de philologie, à philologie, t'arrêtes de chercher parce que c'est trop compliqué. En fait, c'est tentant de s'attribuer des médailles. C'est juste un truc moche, trop grand et trop rond, qui pend autour de ton cou comme un testicule de vieillard. Mais en France, où tout se fait au diplôme, à la distinction, au CV, ça fait briller les yeux des gens qui vous respectent. Donc, qui va juger ce prof? Pas moi, c'est humain. Pour entrer à France Inter, j'avais fait croire que j'avais fini premier de l'International Radio School de LA. En fait, en anglais, je sais dire yes et no. Hein, aux États-Unis, on m'appelle le gars avec zéro nuance. J'ai juste un BTS et une médaille de ping-pong.
Oh. Et une tournée aussi, quand il passe du haut, tu vois.
Maintenant qu'il est devenu, imitateur, donc beaucoup de monde, et notamment, on le verra pas à la Basse les Flots, ce sera le 7 mars.
Et la Maison des Femmes, c'est le 4 mars, c'est mercredi, avec nos deux invités qui incarnent deux soignantes, Inès et Manon. Manon dit aussi quelque chose de très fort, non seulement elle dit qu'elle ne veut pas choisir, elle veut tout entre sa vie de femme et sa vie professionnelle. Elle dit aussi, moi j'aime pas les bébés c'est pas mon truc.
C'est énorme, hein.
Mais oui, et mais je trouve ça tellement juste aussi de pouvoir le dire à haute voix sans qu'on soit condamné en tant que
personne
mère,
ne n'aime les bébés
en tant que mère. Il y a des gens qui adorent les bébés, bon, c'est vrai, mais il y a des mamans et des papas qui...
Et en tant que sage-femme.
Voilà, oui, elle dit, je suis sage-femme, je suis pas sage-bébé.
Je suis pas sage-bébé.
Ça aussi, c'est un...
C'est énorme,
une réplique assez étonnante qui a fait parler autour de vous ou pas, cette réaction de dire, ben moi les bébés c'est pas mon truc.
Ah bah oui, c'est énorme. C'est vrai que c'est des choses que moi j'ai pu entendre mes copines me dire à moi, parce que j'ai pas d'enfant en loose day, quoi. Mais le dire dans un film, c'est quand même un truc.
Ouais.
On évolue par rapport à la maternité.
Oui, ça dit pas et ça ne vient pas nier l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants. C'est simplement dire, bon, y a des âges de développement. On préfère peut-être quand ils ont 4-5 ans plutôt que quand ils sont tout petits. Et ça varie d'une personne à l'autre, d'un enfant à l'autre.
Moi, en dessous de 37 ans, les gens m'intéressent.
C'est vrai. Avec ce duo que vous formez, lors d'une consultation en particulier, une consultation où on sent qu'il se passe autre chose qu'une simple consultation, avec vos itinéraires, avec vos personnages, vous avez finalement plein de points communs dans vos personnages de soignantes, toutes les deux.
Oui, alors, je ne sais pas de quelle consultation vous parlez.
Celle qui se passe mal.
Ah voilà, d'accord, celle de Catherine. Oui, celle de Catherine, ouais, une femme... en fait, le personnage d'Inès Koulayev joue, va donner sa première consultation où elle est responsable. Donc moi, je l'assiste et je lui donne des retours à côté. Effectivement, cette consultation, je vais la laisser en parler.
Elle dérape. Sans tout dévoiler, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose, il y a un enjeu derrière ça.
Mais aussi parce que c'est bien aussi de montrer quand on est jeune interne que des fois, on n'a pas forcément tous les codes et qu'on a besoin justement d'un mentor et d'apprendre. Et là, c'est le rôle de justement de Laetitia, Manon, qui va venir lui donner aussi des conseils pour que ça se passe bien, parce qu'on n'a pas les formes, on ne sait pas comment. Et puis comment on s'y prend aussi.
Comment on apprend
ça ? Tout à l'heure, tu l'as dit, mais des fois, il y a des patients, tout c'est très très long, et il faut accepter aussi le temps de chacun. Et puis des fois, elles partent, puis elles reviennent. Et ça, c'est un truc qui s'apprend, je crois, avec l'expérience.
Oui, Laetitia. Ouais.
Moi, quand je suis allée à la Maison des Femmes, j'ai pu assister à une consultation et on m'avait mis sur le petit tabouret à côté, qui est le tabouret du stagiaire qui doit beaucoup regarder avant d'agir. Et c'est vrai que ce qui était là où j'ai le plus appris, c'est en regardant comment les femmes soignantes écoutent. Dans quelle attitude on doit être pour que la parole en face, elle se sente en confiance, qu'elle se sente libre de parler de tout. Et surtout, le temps qu'elles prennent pour ensuite poser des questions, pour ensuite agir, proposer quelque chose. On voit que c'est des endroits de grande, grande, grande délicatesse et de subtilité. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter et ça a été une grande leçon pour moi pour jouer ce rôle que d'apprendre ça.
La Maison des Femmes, c'est en salle ce mercredi de Mélisa Godet avec un super casting dans la bande originale sur France Inter. Et tout de suite, justement, je voulais écouter Solane, Rome, parce que je me suis dit que cette chanson, elle pourrait un peu faire écho à plein de discussions qu'on a pu avoir tout au cours de cette émission.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge s'attacher. Cette jungle, toi, t'aimais à culpa, elle appelle à marcher entre Raotour et Yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les femmes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les femmes comme moi portent les rêves des hommes. Je ne veux plus supplier qu'on me rende mes nuits, mes rues sous les lumières des soleils. Se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit d'aimer à coup à la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne.
France Inter, la bande originale.
C'était Solane dans la bande originale Rome pour parler de cette maison des femmes avec nos invités Oulaya Amamra et Laetitia Dush. Et tout de suite dans la bande originale, c'est l'hommage d'Emma Beaujean.
Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à la sexualité. Et je vois déjà les mauvaises langues, vous allez dire, mais attends Emma, le 12 septembre tu as fait une chronique sur le sexe, tu as rendu hommage au sexe. Ça n'a rien à voir, parce que je vais vous prouver qu'aujourd'hui on peut parler de sexe sans être vulgaire avec la grosse bite et tout là. Alors la sexualité c'est important, qu'on en ait une ou pas je veux dire. J'ai l'impression que ça prend d'ailleurs encore plus de place dans la vie des gens qui n'en ont pas. J'ai un ami qui n'aime pas le sexe, qui se sent contraint sous prétexte que c'est un homme de faire du sexe. Et il me dit toujours, bah pour moi en fait le sexe c'est comme les impôts. Je le fais une fois par an parce qu'il le faut. Bon, c'est sympa l'ambiance. Heureusement qu'on n'a jamais couché ensemble, Tanguy Pastureau. Et, alors je dis heureusement aussi par rapport à la différence d'âge. Non pas que d'habitude ça me gêne tant que ça, mais juste là 600 ans, ça me gêne un peu. Après, moi j'ai une sexualité, ça se passe plutôt bien. J'ai de la chance parce que j'ai joui pour la première fois avec un homme quand j'avais 16 ans. Et depuis ce jour-là, je me suis dit plus jamais je baise sans jouir, c'est mon partenaire à jouir. On est vecteur du plaisir de l'autre. Enfin, c'est comme ça, je veux dire. Quand tu vas au Buffalo Grill, tu veux ta salade d'accueil, c'est pareil. Et puis, moi c'est grave, j'ai une amie qui ne jouit toujours pas. Vraiment, je trouve ça terrible. Mais même toute seule, elle s'est jamais faite jouir. T'imagines ton pire coup, c'est toi-même. T'imagines dans le delà. Mais non mais moi j'en veux au mec avec qui elle a été. Enfin, je veux dire, faut avoir passé son permis où pour toujours pas savoir comment tu tournes la clé. T'imagines, tu payes une école de ciné de malade, les trucs à coûter une fortune, on te forme pendant des années, tu sais toujours pas enlever le cash objectif en fait. Enfin, remboursez-moi. Genre, c'est magnifique en plus le moment où tu jouis. Enfin, magnifique. Tu fais une tête. Alors, je trouve que la tête que tu fais, c'est exactement celle que j'imagine si un jour on te fait bouffer 3 kilos de smecta et qu'on te dit, bah, si t'arrives à Yesh maintenant, on te donne $1 million. Et du coup, quand ça vient, t'es genre. Je sens que je vous ai pas accueilli sur mon petit cours d'acting. La tête fait peur, mais le son fait peur aussi. Faut que je vous raconte, une fois, j'ai couché avec un mec qui faisait aucun bruit. C'est-à-dire que moi, je me suis entendue. Oh là 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 là, l'angoisse, les sons que je faisais. Je me faisais penser un peu à ces gros chiens, tu sais, qui ont pas de cou, qui respirent très fort, très difficilement. c'était atroce. Et alors en ce moment, je couche avec un mec, ça se passe hyper bien parce que je peux réaliser mes fantasmes avec lui. L'autre jour, il m'a demandé ce qui m'excitait le plus. Je lui ai dit le fait que tu me poses la question et que tu te contentes pas d'essayer de réaliser les tiens, c'est déjà pas mal. Et après, je dis la vérité. Enfile ce costume de la vache qui rit, enduis mon corps de fromage bas de gamme et prends-moi en disant Enfin bref, je me souviens qu'avec mon ex, on s'embrouillait tellement jamais qu'on réglait nos comptes au lit. C'était un peu bizarre, ça devenait violent, mais que sexuellement. J'étais là genre, t'aimes ça la communication avec tes belles mains qui préfèrent liker des culs sur Insta que faire la vaisselle. Et maintenant, je couche plutôt avec des hommes parce que ça me fait des trucs à raconter à ma psy, mais moi, mon âge d'or, moi, au fond, ce que je préfère, c'est les femmes. Voilà. Moi, mon âge d'or, c'est les gonzesses. On dirait une citation de Daniel Morin. Mais c'est vrai, coucher avec une femme, c'est tellement plus intimidant. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est dur de faire jouer une femme la première fois. J'étais genre, en fait, j'annule tout ce que j'ai dit avant, messieurs. Je comprends d'ouf quand tu te la racontes si t'y arrives. Et le sexe, c'est bien quand c'est bien. Alors, le niveau d'écriture est dingo. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas toujours eu la chance de tomber sur des personnes qui ont rendu hommage au sanctuaire de mon corps, qui l'ont respecté et rendu sacré. Alors, je vais le faire toute seule. En fait, c'est à moi que je rends un hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Bravo Emma.
Et bien bonjour sur scène à Paris, c'est au théâtre Le Pix, tous les mardis, et c'est à 19h.
Oulaya, Laetitia, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines qui viennent, les mois, les choses que vous avez pu tourner, les projets, Laetitia?
Oui. Je peux dire, pour toutes les femmes qui sont un peu complexées par la chronique qu'on vient d'entendre, moi j'ai eu mon premier orgasme à 27 ans. Voilà, c'est sympa. Ouais, ouais, voilà, c'est tout. Justement... Et sinon, plein de choses, on va voir. Des films, j'espère. Ouais, Jérémy Gage, et puis...
C'est quoi Jérémy Gage?
C'est un film qui s'appelle L'Enfant Brûlé, ouais. Autour du bouquin de Stieg Dagerman. C'est un film qui est dans l'univers un peu de Fassbinder. Puis là, j'attaque le tournage de Rick Gravel. Et j'essaie d'écrire.
Un spectacle? À nouveau la scène?
On verra.
Ouais, non mais vous avez envie d'y retourner à la scène?
Ouais, ça me manque. Me manque beaucoup.
Avec une forme particulière, vous pensez déjà à ça hein?
C'est en fabrication pensée.
Ça veut dire que ça commence.
Voilà.
Ça commence à venir. Oulaya, qu'est-ce que vous avez en film qui sort? Moi, j'ai 3 minutes avant la fin du monde.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Heureusement. C'est bon, on l'a tourné il y a un an.
Ouais, oui.
Oui, c'est vrai, j'ai pas encore vu. Sinon, j'ai fait un film de Felipe Barbosa, oui. Qui est un réalisateur brésilien, sur le deuil de cette photographe Leila Alaoui qui a été tuée au Burkina Faso. Et c'est sur cette famille endeuillée que joue sublimement bien Marina Foïs et Roche Dizem. Et après, je vais au théâtre.
Ah.
Donc là, je commence des répétitions la semaine prochaine. Je suis très excitée, parce que depuis le conservatoire, je n'ai pas été au théâtre.
Ouais.
Et je joue normalement à La Colline, courant octobre-novembre.
Alors, un texte.
Je vais faire... Alors, on découvre le texte. C'est un texte contemporain de Sébastien Kérouffis. Ça s'appelle La mort du môme, pour l'instant. C'est sur le deuil.
On tire un petit fil avec, avec une appréhension particulière à l'idée de monter sur scène.
On le traque déjà. En plus, hier, il m'a annoncé que normalement, je crois qu'on doit jouer aussi au Panthéon.
Ah oui.
Donc, non, grosse pression là. Je vais vraiment pas faire la maline.
Vous êtes dans quoi, l'apprentissage du texte là?
Là, on va être dans la découverte du texte et après, on va décortiquer les scènes et répéter la semaine prochaine.
Bon, de belles choses en perspective. On viendra vous applaudir, Oulaya Mamra à La Colline. La Maison des Femmes, je l'ai dit, c'est mercredi et il est temps de présenter des excuses, Daniel.
Absolument, désolé pour tous ceux qui prennent des cours de comédie en France et qui se disent « Ah merde, on est vraiment des losers, c'est pas là qu'il faut être, c'est en Suisse, à la manufacture, il y a des cours de ouf, il y a de la gnôle, il y a des kinder. » Alors ça a l'air bien la manufacture, mais c'est peut-être compliqué. Hein. Dans le Hall of Fame de la manufacture, je peux reconnaître les portraits d'Émile Louis, de Donald Trump et de Rebecca Balestra, justement. Oui, Rebecca?
Je t'encule, Daniel.
Merci beaucoup. Désolé pour Laetitia Doche, l'aventurière Laetitia Doche, qui nous a raconté son stage d'immersion survivaliste chez une comptable. Waouh! La vie doit être bien fade à côté, j'imagine. Heureusement, ce matin, vous avez une sacrée expérience ethnologique avec Old Laugh. Ça, son petit effet de taser,
oui,
c'est vrai. Désolé enfin pour Nagui, qui m'a appelé à la pause pour me dire, entre deux sanglots, qu'il ne reconnaissait pas son émission de ce matin. Des questions claires, des réponses brillantes, un sujet fort, sensible, des messages d'humanité et de combat. Ah, t'inquiète, mon Nagui. Demain, je te remonterai le moral au barbecue, masculinisme, viande rouge et art de vivre organisé chez Emma Bojan et l'association des culturistes serbes. Criminel de guerre.
Merci, Daniel.
Merci d'avoir été avec nous, Oulaya, Laetitia, avec ce super casting, Karine Viard, Eya Hidara, Pierre Deladonchamp, Juliette Armanet, Jean-Charles Cliché, Laurent Stocker de la Comédie Française, Alexandra Roth et Horatica. Que de bonnes raisons d'aller voir ce film sur la maison des femmes. Merci à la bande autour de la table. On se retrouve demain dans la bande originale avec Katel Muller qui viendra nous parler de Gigi, une nouvelle de Colette, l'occasion d'aborder un peu cette grande figure de la littérature.